Bien, bonsoir à tous et à chacun. Serge Receveur au microphone. Nous avons ce soir le plaisir de recevoir dans les salons Albert Mola, Patrice Guénifet, pour son ouvrage Bonaparte, publié chez Gallimard dans la collection Biographie. Patrice Guénifet, bonsoir.
Bonsoir.
Je tiens, comme toujours, à saluer tous les auditeurs qui nous écoutent au travers du site mola.com. Pour ceux qui l'ignoreraient, je voudrais rappeler ici que vous êtes directeur du Centre de recherche politique Raymond Aron, de l'École des hautes études des sciences morales, que vous fûtes, vous m'avez dit tout à l'heure, non pas l'assistant, mais l'élève de François Furet, que vos premiers travaux furent consacrés à la Révolution française. Mesdames, messieurs, je suis venu au devant de vous à de nombreuses reprises avec mon ami Jean Tullard, spécialiste de Napoléon. Et Denis Mola a la faiblesse d'accepter mes souhaits, car je tenais absolument à ce que nous puissions vous présenter ce soir l'ouvrage de Patrice Guénifet. Monsieur Guénifet, votre modestie dût-elle en souffrir.
Elle va en souffrir.
Je trouve que nous sommes en présence d'une magistrale biographie. Pour le lecteur exigeant, je signale qu'elle renferme 12 feuillets recto verso de bibliographie, 7 cartes et 59 pages de notes. Votre ouvrage est un déroulé sur 33 ans, 15 août 1769, 1802. Nous allons devoir le parcourir compte tenu du temps qui nous a imparti à grandes enjambées. Mais je voudrais débuter, vous dire que vous n'êtes pas tombé dans les chausse-trappes qu'un tel ouvrage peut ourdir. On peut être extrêmement critique, et à Bordeaux, il y a des raisons de l'être vis-à-vis de Bonaparte. Mais cet homme fascine, vous l'écrivez, il est une figure de l'individu moderne. Vous citez Victor Hugo en disant « un grand homme a deux naissances, la première comme homme, la seconde comme génie ». Donc on va commencer peut-être avec la naissance.
Bah oui, c'est un bon point de départ dans une biographie. Tout d'abord, merci donc de m'avoir invité, de me recevoir ici dans ces salons. Merci à vous tous d'être venus. Effectivement, la naissance, c'est le point de départ de toute biographie. Là-dessus, je suis un partisan des manières de faire classiques. C'est-à-dire qu'une vie commence par la naissance et se termine par la mort. Alors je m'arrête là à mi-chemin puisque il n'est pas encore mort, mais rassurez-vous, il mourra pour finir comme nous tous. Là, je l'ai suivi dans sa période d'ascension, à partir de débuts qui n'annonçaient pas la suite du tout, puisque sa naissance se
pas
produit.
Joué, hein.
Ce n'est pas une histoire jouée d'avance, et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce destin, c'est qu'il vient de très loin. En réalité, et que parmi tous les postulants à la succession de la Révolution ou à l'héritage de la Révolution, il est le plus improbable de tous, car il n'est pas le seul général victorieux de l'époque, il y en a beaucoup, il y a des politiciens très doués. La Révolution a été une formidable école de politique. Donc il y a beaucoup de politiciens qui auraient pu rafler la mise, pense à Sieyès, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ce petit général corse, élevé en France, certes, mais resté très corse par d'autres côtés, qui ne s'est jamais senti français, qui n'a jamais eu d'affection particulière pour la France d'ailleurs, qui en manie très bien la langue, mais qui la parle très mal, qui va recueillir la succession. Donc il y a quelque chose d'improbable dans ce destin. Et ça suppose beaucoup de travail. C'est-à-dire que pour arriver où il est arrivé, il a fallu beaucoup d'efforts, d'intelligence, de travail.
De talent.
D'absence de scrupules aussi. Bref, tout ce qui concourt à une réussite.
Oui, surtout qu'il dit que notre sort ne résistera pas à notre volonté.
Ça, c'est sa conviction, c'est-à-dire que...
C'est le fondement
De ce qu'il est. Oui. C'est-à-dire cette conviction, mais qui est liée à son époque, parce qu'il a, il est l'enfant de la Révolution. C'est la Révolution qui va le révéler. Et il a cette conviction qui est celle des révolutionnaires que tout est possible. Et effectivement, ils ont renversé l'Ancien Régime, ils ont coupé la tête du roi, ils ont aboli une monarchie qui avait plus de 1000 ans. Donc ils ont la conviction qu'on peut tout faire pourvu qu'on s'en donne les moyens. Et que si on est prêt à utiliser une violence importante, etc., eh bien, tout est possible. On peut détruire le monde entièrement et le réinventer. Et cette conviction-là, il l'a pour lui-même. Et il a le sentiment que sa vie est un destin qui lui appartient à lui d'abord. Et qu'il va transformer, il va vaincre toutes les résistances, tous les héritages, et s'inventer lui-même, de manière à laisser son nom à tout jamais dans l'histoire. Et il a cette conviction-là à partir de l'âge de 30 ans. Et même avant, puisque c'est une conviction qu'il acquiert en Italie, dès la première campagne d'Italie, donc il a 27 ans. Et à partir de ce moment-là, il le dit, je me voyais vivre dans l'histoire. Et tout le reste
est
déterminé par
ça. C'est effarant.
Oui, c'est effarant parce qu'on pourrait dire en même temps que c'est une conviction folle qui n'est pas normale. Et d'ailleurs, vous savez que pendant très longtemps, les asiles ont été remplis de gens qui se prenaient pour Napoléon. Et mais, c'est une plaisanterie, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose de très profond. C'est-à-dire que l'idée d'être Napoléon, c'est l'idée d'exister sans contrainte, de ne dépendre de rien et de disposer du monde comme d'un terrain de jeu ou d'une scène où on va pouvoir tout inventer autour de soi. Et il y a quelque chose de profondément fou dans cette histoire. Et du même coup, il y a quelque chose de profondément monstrueux dans cette histoire. Puisqu'au final, il sacrifiera tout à son destin. Hein ? Donc il y a quelque chose d'hors proportion et de, si on voulait parler, on est au pays de montagne, de déraisonnable dans cette histoire.
Oui,
ouais. Tout à fait.
Oui, il y a un fond déraisonnable. Faudrait peut-être parler de ses origines corses, parce que vous disiez qu'il ne s'est jamais senti très français.
Non.
Il s'entoure de Corses durant toute sa carrière. Et il y a une vraie corsophilie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ?
Oui, c'est une affaire très compliquée parce que pour des raisons biographiques, au fond, il a cessé d'être corse. Il est devenu français, mais il ne se croit pas français. Mais il ne pense pas être corse non plus.
Bon, parce c'est un Français de l'extérieur.
C'est un Français de l'extérieur, mais qui n'a pas vraiment de racines. D'abord parce qu'il vient d'une ville corse tout à fait particulière, qui est Ajaccio, et qui, au XVIIIe siècle, n'est pas une ville corse, puisque les Corses, légalement, n'ont pas le droit d'entrer dans la ville. Ils doivent habiter ce qu'on appelait hors les murs. Et c'est une colonie italienne, ce sont des Génois qui habitent là, qui se marient avec des Corses. Donc ils deviennent corses peu à peu, et c'est le cas des Bonaparte. Mais en même temps, ils refusent de se dire corse. Et ils se disent italiens, ils parlent le dialecte génois, et ils envoient leurs enfants faire leurs études à Pise ou à Naples, qui sont les deux grandes universités italiennes de l'époque. Donc ils ne se pensent pas comme corses. Alors le petit Napoléon apprend le génois, mais à l'âge de 9 ans, il s'en va dans les collèges de la monarchie sur le continent, où il va rester pendant 8 ans sans revoir ses parents, sauf une fois, une visite de sa mère, en 8 ans. Donc il est uniquement avec des petits Français, il absorbe la culture française, les idées aussi françaises du siècle des Lumières, il lit Rousseau, etc. Et quand il revient en Corse, il est devenu officier du roi, il est lieutenant, il revient en Corse, il a 17 ans, il s'aperçoit qu'il ne comprend plus du tout sa langue maternelle, il ne parle plus que le français. Et c'est le moment où il devient indépendantiste corse, comme aujourd'hui, forcené. Et son rêve, désormais, il est officier du roi, va être d'arracher la Corse à la domination de la France pour refaire ce que Paoli avait fait quelques décennies plus tôt. Il veut devenir le nouveau Paoli. Et il va avoir cette ambition jusqu'au moment où Paoli et les Corses vont le jeter dehors avec sa famille en 1793. Et à ce moment-là, il choisira la France pour réaliser ses ambitions, contraint et forcé, parce qu'il aura été chassé de Corse. Mais au fond, il n'a pas compris qu'en Corse, il n'avait aucun avenir. C'est finalement parce qu'il a été chassé qu'il a trouvé un théâtre à sa mesure. Mais il n'en veut pas pendant des années. Il veut devenir le nouveau Paoli, le nouveau chef de la Corse. Et donc après, une fois chassé de Corse, il tire un trait définitivement sur la Corse. D'ailleurs, il va traiter très mal la Corse, ce qui explique que les Corses ont des rapports avec le personnage de Napoléon, qui sont des rapports qui ne sont pas des rapports d'affection ou de proximité du tout. Il les a soumis à une autorité très dure, avec des exécutions, pour l'exemple, quasi quotidiennes, etc. Mais en même temps, il reste très corse. D'abord parce que pour lui, les liens du sang sont les liens du sang. Donc, il a beau mépriser absolument toute sa famille, sauf sa mère. Ça, c'est très corse aussi. Mais en tout cas, ses frères et ses sœurs. Néanmoins, il ne leur refusera jamais rien. Parce que c'est son sang. Et puis, quand il a des missions délicates et illégales à confier, il ne les confie qu'à des Corses. Parce qu'il a confiance en eux, parce qu'il y a les liens de fidélité et d'honneur qui font que les Corses peuvent trahir, mais ils ne le vendront jamais à d'autres, hein, même s'il y a des haines entre eux, etc. Donc, à la fois, il n'est pas Corse. D'ailleurs, ce qu'il préfère, c'est l'Italie. Il dit, hein, sa vraie patrie, c'est l'Italie. Il n'aura jamais d'affection pour la France. Alors, il comprend très bien la France et son histoire et son caractère, ses passions, mais il ne les partage pas. Et quand il s'adresse à ses proches, il leur dit « Vous autres Français, vous pensez que ?» Ce qui veut dire que lui-même ne se sent pas français. Ce qui lui a donné une grande liberté parce qu'au fond, il n'est de nulle part. Et d'ailleurs, je fais souvent une comparaison, mais qui me semble tout à fait probante. On peut, bien sûr, par certains côtés, le comparer avec De Gaulle. De Gaulle, vous ne pouvez l'imaginer qu'en France. Vous ne pouvez pas imaginer De Gaulle en Italie, en Russie, en Chine, au Japon, n'importe où. Napoléon, vous pouvez l'imaginer absolument partout. Ce qui explique d'ailleurs qu'il a des admirateurs absolument partout. Parce que c'est un personnage qui, au fond, n'est de nulle part. Et c'est ce qui explique la tragédie finale. Parce qu'il ne tient pas assez à la France pour se sacrifier, finalement. Et il va sacrifier le pays à ses ambitions et à ses passions, à lui.
Hein voilà. Oui, oui. Terrible, hein, je vais vous dire.
C'est un personnage...
C'est un personnage extraordinaire. On va peut-être, comme j'ai dit, on va faire ça à grandes enjambées. Est-ce qu'on voudrait peut-être parler de Toulon ?
Oui, Toulon, c'est très important parce que c'est...
Sauf si vous souhaitez...
Non, Toulon, c'est très important.
...évoluer autrement. À mon avis, c'est là où il s'est illustré pour la première fois.
Oui, tout à fait, soudainement. C'est-à-dire que quand vous le prenez à Toulon, il devient lui-même définitivement. Alors, en petit, sur un petit théâtre, hein, Toulon, c'est pas grand-chose. Il trouve... Bon, l'histoire est la suivante. Il vient d'être chassé de Corse. Il n'a pas d'emploi militaire. Il est à Toulon. Et il a, comme tous les gens qui font des grandes carrières politiques, une chance extraordinaire. D'abord parce que dans les guerres, il ne sera jamais tué, déjà. Et il a une chance extraordinaire parce qu'il arrive à Toulon. Il est officier d'artillerie. Le jour où le commandant de l'artillerie est blessé par un boulet ennemi.
Exact.
À la jambe. Jambes cassées. On a besoin de quelqu'un pour commander l'artillerie de l'armée républicaine qui est chargée de reconquérir Toulon. Il est là. Et il se trouve que son vieil ami Salicetti, Corse, avec qui il a des relations difficiles, mais néanmoins c'est un Corse, dit voilà, j'ai quelqu'un là qui pourra très bien faire l'affaire pour commander l'artillerie. Et comme dit Salicetti à un autre Corse, il dit en plus, il est des nôtres. C'est un pays, c'est un Corse. On va lui confier. Donc il a une chance extraordinaire. Mais... Il révèle là une intelligence tactique extraordinaire. C'est-à-dire, il lui suffit de regarder la carte pour voir l'endroit où il faut positionner les canons pour forcer la flotte anglaise à quitter la rade de Toulon. Et il va batailler pendant 2 mois pour imposer son point de vue avec une audace, une insolence extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est déjà là tout entier. Et il n'est rien encore. Et il se révèle dans la mesure où, si on le considère avant... Eh bien, on ne voit rien qui annonce ce personnage qui surgit à Toulon tout d'un coup. Mais certains, comme le frère de Robespierre qui est là, et comme Barras, sentent tout de suite que là, ils ont sous la main un personnage extraordinaire. Et quelqu'un qui va fatalement compter dans l'histoire politique des années qui suivent.
Et qu'il avait la passion de la lecture des cartes.
Oui, il a la passion. C'est un homme qui a d'abord la passion de la lecture. Il le dit, les dissipations de ma jeunesse ont été la lecture. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il lit absolument tout ce qui passe entre ses mains, absolument dans le désordre, ce qui explique qu'il a une culture à la fois vaste et rudimentaire. Il connaît un peu sur tous les sujets, ce qui lui permettra ensuite de parler avec tout le monde.
Pas toujours de très bons professeurs non plus.
Au collège ?
Oui.
Non, il n'a pas eu de bons professeurs. Mais vous savez, ça, au 18e, c'était très connu. Et d'ailleurs, le 18e est rempli de débats sur la réforme de l'enseignement et des collèges, parce qu'on n'y apprend rien. Et quand les gens sortaient du collège, ils ne savaient rien sauf du latin. Mais il se trouve que le latin était une très bonne école. Et qu'avoir étudié l'histoire classique et avoir fait du latin et du grec leur donnait toutes les bases ensuite pour s'instruire par eux-mêmes. Mais il a fait donc comme au 18e, il s'instruit par lui-même. Mais c'est un siècle très intelligent, donc où il y a beaucoup de bons livres à lire, et ce qui lui a permis d'acquérir une instruction vaste. Donc c'est un homme de la lecture. Et il a appris la guerre dans les ouvrages de géographie et dans les mémoires militaires sur les anciennes campagnes. Il a un apprentissage de la guerre qui est principalement livresque. Mais quand il arrivera sur le terrain, eh bien, il convertira instantanément ce savoir livresque en savoir pratique.
Exact.
Et c'est là où on voit qu'il est doué, quoi. C'est un jeune homme doué, très doué.
C'est aussi un génie de la publicité, quand même.
Oui. Mais ça prouve aussi son intelligence. C'est-à-dire c'est ça qu'il a compris. Même, vous savez, il n'a absolument aucun goût pour la Révolution française. Il la déteste totalement. Il déteste tout ce qu'elle représente.
Mais vous le soulignez bien. Souvent, on l'oublie.
Oui.
Mais il n'aime pas cette Révolution.
Non, parce qu'il n'aime pas la démocratie. Il n'aime pas la liberté. Il n'aime pas l'égalité parce qu'il est persuadé d'appartenir à une authentique famille noble. Il a de la nostalgie pour l'ancien régime qu'il n'a pas connu. Et le fait qu'il aime Joséphine, ça va compter là-dedans, dans son amour. Parce que pour lui, c'est une grande dame de l'ancien régime. Donc, il a un côté petit noble, petit aristocrate de province. Et il déteste la Révolution française. Mais il comprend tout de suite, en 93, lorsqu'il arrive en France, juste après le régicide, il comprend que la Révolution a gagné et qu'elle est irréversible, que l'ancien régime ne reviendra jamais. Donc il comprend ça. Et dès lors, il va être du côté de la Révolution. Tout à fait.
Et c'était le moyen de pouvoir s'exprimer.
Oui.
Parce que je ne pense pas que si la royauté était revenue, qu'il aurait eu un rôle à jouer.
Et d'ailleurs, si la révolution n'avait pas éclaté, il n'aurait eu aucun avenir.
Aucun avenir.
Comme d'ailleurs tous
les
futurs.
Pas de révolution, pas de Napoléon.
Pas de Napoléon, pas de Davout, pas de Murat, pas de Masséna, etc. etc. Même Cambacérès serait resté un magistrat à Montpellier. La révolution leur a ouvert une voie extraordinaire, leur a donné un avenir. Du moins pour les plus doués et pour ceux qui ont réussi à survivre. Les révolutions sont bien sûr des périodes assez dangereuses, mais pour ceux qui s'en sortent, il y a un avenir absolument royal qui s'ouvre. Il est très conscient du fait que la monarchie a beaucoup moins à lui donner que la révolution. D'où le fait aussi qu'il choisit la révolution. Mais il a compris qu'elle était irréversible politiquement. Qu'on ne reviendrait plus en arrière.
On va sauter à Campo Formio.
La fin de l'Italie.
Si vous voulez nous parler un peu de cette campagne d'Italie et de comment tout ça s'est joué, quand même.
La campagne d'Italie, au début, c'est une manœuvre de diversion. C'est-à-dire qu'une armée doit attaquer les Autrichiens en Lombardie, les chasser de Milan, pendant que l'attaque principale se fera à partir du Rhin, le long du Danube, jusqu'à Vienne. pour forcer les Autrichiens à capituler à Vienne. C'est un plan classique. C'était le plan qu'avait déjà Carnot pendant la Terreur. C'est le plan qu'avait repris Robespierre à la fin de sa dictature. C'est un plan tout à fait classique qui remonte à Louis XIV. Mmh. On franchit le Rhin, on descend le Danube et on marche sur Vienne. Et puis, pour faire diversion, pour que les Autrichiens immobilisent une armée en Italie, donc une autre armée plus petite attaquera par la Riviera en direction de Milan pour y fixer une armée autrichienne. Bonaparte, qui est un jeune homme très ambitieux, a une autre idée. C'est de partir avec cette petite armée, de battre les Piémontais en 3 semaines, ensuite de se retourner contre les Autrichiens, de conquérir la Lombardie et de ne pas s'arrêter là. De traverser les Alpes au-dessus de Venise et de marcher jusqu'à Vienne. C'est refaire un peu ce qu'avait fait Hannibal à un autre endroit. Traverser les Alpes en plein hiver, dans la neige. Donc, il a d'emblée une vision stratégique très large. Il veut d'emblée être l'unique bénéficiaire de la guerre. Et il a d'emblée le sens du grandiose, quel que soit le prix à payer, car c'est un officier qui sera adulé par ses troupes, mais qui jamais ne ménagera ses troupes. Mmh. Il sera toujours indifférent aux victimes qu'il sème sur son chemin. Mmh. Il n'a absolument pas ce genre de sensibilité ou de compassion pour ses troupes. Donc, une idée grandiose. Alors, dès lors, entre lui et le gouvernement, ça va être une guerre permanente. Le gouvernement lui interdit de réaliser le plan qu'il a imaginé, et lui intrigue et s'efforce de remporter le plus de victoires possibles et le plus éclatantes pour s'imposer. Voilà, pour s'imposer. Et il finit par réussir. Au passage, il conquiert la moitié de l'Italie, il rançonne le pape, il rançonne les États dans la partie centrale de l'Italie. C'est la razzia. Parce qu'il il est très malin. Donc il sait que toutes les œuvres d'art, tous les l'or, l'argent, les bijoux qu'il vole en Italie et qu'il envoie au gouvernement, à un gouvernement dont les caisses sont absolument vides, oui, rendent ce gouvernement dépendant de son action. Et peu à peu, donc, il va s'imposer au gouvernement en le gorgeant de richesses qui permettent de tenir dans une période de déficit des finances publiques pire qu'aujourd'hui. Et il va réussir à imposer son plan finalement, et donc à traverser les Alpes, et à imposer une paix à l'Autriche, qui est une paix dont il sait finalement qu'elle ne sera qu'une trêve. C'est ça qui, chez lui, est toujours très ambigu. C'est-à-dire, il fait de grandes choses, mais avec un résultat tout à fait éphémère. Et la paix de Campo Formio est une paix boiteuse, puisqu'il échange, au fond, la Lombardie contre Venise. Il donne Venise aux Autrichiens parce que les Autrichiens avaient l'ambition de devenir une puissance maritime. Et comme vous le savez, l'Autriche n'a pas la mer. Et les Autrichiens veulent un accès.
C'est une ouverture.
C'est Venise. Et ils guignaient Venise. Ils étaient prêts à sacrifier la Belgique, la rive gauche du Rhin, se séparer de la Lombardie. Mais ils veulent la Vénétie. Et Bonaparte, le sachant, leur donne la Vénétie en échange de la possibilité de fonder une république italienne qui sera sa création à lui, sa chose. Mais en même temps, il sacrifie la rive gauche du Rhin pour laquelle les Français se sont battus. Donc c'est une paix bâtarde, et à l'issue de laquelle personne ne renonce à rien en vérité. Tout le monde sait que la guerre va reprendre une fois que les deux belligérants auront repris des forces. Et donc, comme il ne veut pas payer le prix de cette paix bâtarde, il décide de partir loin, c'est-à-dire en Égypte, là où il n'aura pas à payer les conséquences de la paix qu'il a signée.
Puisque vous parlez d'Égypte, il faut que vous nous expliquiez les justifications de la campagne d'Égypte.
Bon, ça, c'est une affaire qui reste un peu énigmatique.
Exact.
Parce que c'est
quand même extraordinaire.
Parce qu'elle s'est tellement mêlée à la légende que,
on va envahir l'Angleterre. Oui. Bon, ça, c'est un leurre.
Oui.
Et ensuite, quelle est la justification de la campagne d'Égypte?
C'est précisément que envahir l'Angleterre, c'est-à-dire débarquer en Angleterre, s'avère impossible parce que, comme vous savez, la marine française n'existe plus. Elle était très brillante sous Louis XVI, hein, participait à la guerre d'indépendance américaine. Et puis, au début de la Révolution, les officiers de la Royale, comme on les appelait, étaient, comme aujourd'hui, très légitimistes. C'est-à-dire qu'ils ont prêté un serment qu'ils prennent au sérieux. Et donc, les officiers de la Marine Royale avaient prêté serment au roi. Et quand on leur a demandé de renier ce serment pour un serment à la nation, eh bien, ils ont préféré soit démissionner, soit émigrer. Ce qui fait que la France, du jour au lendemain, s'est retrouvée sans officiers de marine. Alors, on a comblé les vides avec des officiers de la marine de commerce, mais ce n'est pas le même type d'homme. Les officiers de marine du commerce pensent à protéger la cargaison et le navire. Faire la guerre navale, c'est tout à fait autre chose. Donc, débarquer en Angleterre, c'était déjà difficile. La marine de Louis XVI n'avait pas réussi déjà. Depuis Guillaume le Conquérant, personne n'avait réussi à débarquer en Angleterre. Donc, que faire ? Alors, les Anglais s'étaient installés en Inde, d'où ils tiraient l'essentiel de leur richesse, de leur puissance. Alors, l'idée, c'était d'occuper l'Égypte, qu'on considérait comme le maillon faible de l'Empire ottoman, de manière à accéder à la mer Rouge et à accéder au golfe Persique, et par ces routes-là, de pouvoir menacer les Anglais en Inde. Donc, l'Égypte était une route vers l'Inde. Et déjà Louis XIV avait envisagé la conquête de l'Égypte précisément pour prendre le contrôle du sous-continent indien et ouvrir une autre route alternative à celle du Cap de Bonne-Espérance, avec l'idée annexe de creuser un canal à Suez qui permettrait de relier la mer Rouge à la Méditerranée. C'est une histoire qui commence avec Louis XIV. Et même déjà au temps d'Henri IV, il y a des projets qui parlent de la possibilité d'un canal de la mer Rouge à la Méditerranée. Alors l'idée, c'est ça. C'est à la fois de prendre possession d'une partie de l'Empire ottoman qui permettra de menacer les Anglais, de détourner le commerce international vers la mer Rouge et vers Suez, et accessoirement aussi de mettre un frein aux ambitions russes, parce que les Russes sont en train de descendre vers le Caucase, de menacer la Perse, et ils ont l'ambition de s'installer à Constantinople, de démanteler l'Empire ottoman.
Eux aussi voulaient avoir un accès à la mer.
Tout le monde veut un accès à la mer à l'époque, parce que la mer, c'est la puissance. C'est-à-dire un grand pays est un pays qui est puissant sur les océans. Donc tout le monde tend à se porter vers l'Empire ottoman parce que déjà on considère que la Turquie est, comme on le dira plus tard, l'homme malade de l'Europe. C'est-à-dire que c'est un empire en décomposition. Il va encore durer presque 200 ans, mais néanmoins...
Avec qui la France entretenait
La France est l'allié traditionnel de la Turquie depuis François Ier. Ouais. Parce que ça permettait au roi de France... quand ils étaient en guerre contre l'Espagne ou l'Autriche ou la Suède, eh bien, de faire peser une menace de revers sur les puissances européennes centrales. Et les pouvoirs révolutionnaires ont renouvelé l'alliance avec la Turquie. Mais on considère que le sultan est devenu incapable de tenir ses provinces. Le Maroc s'est déjà plus ou moins émancipé. L'Algérie est aux mains des pirates barbaresques. C'est-à-dire que Constantinople n'a pas de contrôle là-dessus. Et l'Égypte est aux mains d'une milice équestre, qui sont les Mamelouks, qui sont une aristocratie tout à fait indocile, qui n'obéit pas vraiment au pouvoir de Constantinople, qui de temps en temps tente de conquérir la Syrie pour créer une sorte de sultanat Mamelouk. Donc c'est un peu le maillon faible. Et en plus, il y a toute cette histoire, il y a toute une dimension culturelle, qui est qu'au XVIIIe, on considère que l'Égypte est l'origine de la civilisation européenne et occidentale, que la civilisation est née en Égypte, qu'elle est passée en Grèce, de Grèce à Rome, de Rome chez les Arabes, des Arabes qu'elle est revenue en Europe. Et donc, il y a une ambition de redécouvrir l'Égypte, son passé, son histoire, ses monuments, pour réunifier l'histoire culturelle du monde de l'époque. Donc, il y a plein de motifs d'aller là-bas. Et chez Bonaparte, il y a bien sûr le souvenir de l'épopée d'Alexandre en Orient. Et il n'exclut pas, si les choses se passent bien, eh bien à partir de l'Égypte, de marcher jusqu'en Inde, jusqu'au Bengale, comme avait tenté de le faire Alexandre.
Mais bien sûr.
Donc il a beaucoup de raisons. qui sont des raisons très profondément enracinées dans l'histoire diplomatique de la France, et puis des raisons personnelles, parce que c'est le rêve d'une épopée qui le mettrait à des distances incommensurables au-dessus de ses contemporains.
Et il s'entoure de tout ce qu'il faut. Pour
Il emmène plus d'une centaine de savants avec lui, dans tous les domaines, des ingénieurs, des artistes, etc.
Certains des fausses, mais enfin, la majorité.
Oui, ben d'abord, on ne leur dit pas où ils vont.
Oui,
parce que l'expédition est secrète.
C'est extraordinaire. Les gens partent et
ils ne savent pas.
Ils leur disent, non, on ne vous dit pas où on va.
On leur a dit une fois passé Malte qu'on allait en Égypte. Et il n'y a que Monge qui était au courant, parce que Monge fait partie de l'entourage très proche de Bonaparte. Donc Monge est au courant. Mais sinon, on ne leur dit pas.
Pour lequel il a une admiration extraordinaire, il a des relations incroyables.
Bah, ça, c'est une assez belle histoire d'ailleurs, parce que probablement c'est le seul homme pour qui Bonaparte, et Napoléon ensuite, et éprouver ce qui ressemble peut-être à une forme d'amitié vis-à-vis de Monge. Et de l'autre côté, du côté de Monge, il y a une dévotion absolue, totale, jusqu'à l'aveuglement. Hein. Et encore à la fin, tout à la fin, ça, je trouve que c'est une belle histoire, en 1815, après Waterloo, quand Napoléon revient et habite à l'Élysée pendant les quelques jours qui le séparent de son abdication et de sa déportation à Sainte-Hélène. Monge est l'un des très rares qui vient le voir. Monge est très âgé à ce moment-là. Et Monge lui dit, écoutez, sire, voilà, votre frère Joseph s'offre pour vous faire évader aux États-Unis. Les Américains sont prêts à vous accueillir. Partons ensemble aux États-Unis et nous ferons à pied le chemin qui va du Canada à la Terre de Feu. Et nous recueillerons tous les spécimens de la botanique et de la faune d'Amérique. Donc, ce qui prouve qu'il avait pour cet homme une fascination extraordinaire. Il le considérait comme son ami. Et d'une certaine façon, Napoléon l'aimait. Oui. Et lui disait beaucoup de choses, beaucoup de confidences d'ailleurs, personnelles aussi, oui, sur sa vie.
Et ça, c'est sa très femme rare. Râlait.
La femme de Monge était très autoritaire. Monge était c'était un homme... C'est vraiment l'intellectuel, comme on se le représente, c'est-à-dire qu'il n'a aucun sens des réalités. Et par exemple, en Égypte, les soldats le détestaient, Monge, parce que pendant que tout le monde souffrait vraiment, notamment pendant la traversée du désert, Monge était avec son Hérodote à la main, le voyage d'Hérodote en Égypte. Et alors, il disait, voilà, ces ruines-là, ça, c'est le café que décrit Hérodote à la page tant. Et où on vendait le vin à tant le verre. Et alors, il obligeait toute la colonne à s'arrêter pour recueillir quelques spécimens, pour pouvoir ensuite vérifier si c'était bien l'endroit qu'avait décrit Hérodote. Donc, c'était un personnage qui était charmant et qui était absolument terrorisé par sa femme, qui était autoritaire. Mais il était prêt à aller en enfer pour Napoléon.
Pour Napoléon.
Mais il devait à chaque fois expliquer à sa femme qu'il allait l'abandonner pour des mois et suivre son grand homme.
On va peut-être parler d'Aboukir, quand même.
Oui.
Enfin, le premier Aboukir. Oui.
Grand désastre.
Ah, ce qui était un désastre.
Grand désastre, la flotte coulée par Nelson.
Et qui a été très malin.
Nelson a été très malin. Il était chargé de savoir où allait cette flotte française qui avait quitté Toulon.
Et il ne s'est pas laissé avoir.
Non. Alors d'abord, vous savez, la navigation, c'est compliqué à l'époque. Hein. Donc la flotte passe par Malte, se dirige vers Alexandrie, la flotte française. Et Nelson passe un peu plus au nord, par la Crète. Et il y avait du brouillard. Il est passé à 15 km des Français, hein. Mais il ne les a pas vus. Donc il les a dépassés comme il allait plus vite. Eux étaient, c'était un convoi très lourd avec des bateaux chargés de matériel, etc. Il les a dépassés, il est arrivé à Alexandrie. Il ne les voit pas. Alors là, il se dit, ils sont partis à Constantinople. Il repart d'Alexandrie, il monte à Constantinople. Où évidemment, il ne les trouve pas. Quand il arrive à Constantinople, les Français arrivent à Alexandrie, débarquent, s'emparent d'Alexandrie et mettent la flotte à l'abri dans la baie d'Aboukir. Nelson, ne les voyant pas à Constantinople, il a eu des avaries, etc. Il décide de repartir, il se rend en Sicile pour réparer. Il répare en Sicile, il remet à la voile, et là, personne ne les a vus. Il dit, c'est pas possible, ils sont pas repartis dans l'Atlantique. Il va quand même voir à Gibraltar, si on les a vus passer, personne. Et là, il dit, ils sont quand même en Égypte, ça peut pas être autrement. Il repart à Alexandrie, et quand il arrive, il découvre la flotte à l'ancre dans la baie d'Aboukir, où l'amiral français, et ça montre la décadence de la marine française, a fait attacher tous ses bateaux les uns aux autres en cas de tempête pour éviter qu'ils soient jetés sur le rivage de la baie d'Aboukir. Et donc là, Nelson a une occasion en or, parce que comme ils sont tous attachés les uns aux autres, ils ne peuvent pas manœuvrer. Et il va se glisser entre la côte et les navires, c'est-à-dire là où on ne l'attend pas, parce qu'on pense qu'il n'y a pas assez de fond pour les gros navires, les gros vaisseaux anglais. Et Nelson ne sait pas lui-même s'il y a assez de fond, mais Nelson était, au fond, fait la guerre navale, comme Bonaparte fait la guerre terrestre. C'est-à-dire il est prêt à tout risquer, à jouer son va-tout. Et il détruit la flotte.
Et il le fait.
Et à partir de ce moment, eh bien, l'armée, le corps expéditionnaire français est coupé de la métropole. Plus d'espoir de renfort. Ça veut dire que l'expédition est perdue. C'est terminé. Mais en même temps, Bonaparte devient totalement libre parce qu'il ne reçoit plus de consignes et il n'a plus de compte à rendre.
De qui que ce soit. Du directoire.
Voilà. Donc là, il va pouvoir faire son apprentissage de souverain et de chef d'État. Parce qu'il n'a plus personne au-dessus de lui. Et il va apprendre à gouverner dans des conditions particulièrement difficiles, puisque l'Égypte est un pays compliqué aujourd'hui, mais a fortiori à l'époque. Et gouverner l'Égypte, c'est très compliqué. Ça va être là aussi un apprentissage à la fois grandiose, mais aussi très cruel, parce que l'expédition d'Égypte, c'est réellement atroce en termes de violence.
Surtout si on parle de Jaffa.
Jaffa, c'est le point culminant, mais les massacres n'arrêtent pas. Bon, je pense que je suis le premier à parler du massacre des prostituées du Caire, qui est quand même un truc abominable.
Oui.
Où il revient de Syrie, il trouve les hôpitaux remplis de soldats atteints de maladies vénériennes. Oui. Son armée a fondu en effectif. Il sait qu'il va avoir à repousser un débarquement ottoman. Oui. Donc, il a besoin de toutes ses troupes. Alors, la solution, eh bien, c'est d'en finir avec la prostitution au Caire. Elles sont plusieurs milliers. Et il dit à son général, bon, réglez-moi le problème, je ne veux plus les voir. Et le général va voir les autorités musulmanes qui lui dit, bon, vous avez une ressource, c'est l'expédient turc. Et donc Bonaparte se fait expliquer, et l'expédient turc, c'est de les assommer, les mettre les coudre dans des sacs et les jeter dans le Nil. Alors, Bonaparte dit, bon, mais l'honneur français, faites-le exécuter par les locaux. Il donne l'ordre. Et donc, en une nuit, ils en ont raflé 500 qui ont été estourbis, cousus dans des sacs et jetés dans le Nil. Bon, et il y a d'autres massacres comme ça. C'est-à-dire que, étant en Orient et délivré du contrôle de l'opinion publique, de la censure du gouvernement, eh bien, il se sent libre de faire absolument
tout ce qu'il veut,
sans limite. Et comme c'est un homme qui, en lui-même, n'a aucune limite au point de vue moral ou autre, il est capable absolument de tout. Donc, y compris aussi le massacre des 3000 prisonniers turcs à Jaffa.
Sans compter l'euthanasie des malades.
De ses propres soldats. Après Jaffa, c'est un ensemble. Il y a le massacre de Jaffa, donc la mise à mort à froid de 3000 prisonniers turcs. Le surlendemain, la visite à ces soldats malades, la fameuse visite aux pestiférés, où il y va pour montrer que la maladie ne peut rien pour lui, pour impressionner les populations autochtones. Donc il va toucher un malade, il va le porter, un malade atteint de la peste, et il était réellement convaincu que la maladie ne pouvait rien contre lui. C'est-à-dire que rien ne pouvait rien contre lui, qu'il était inatteignable. Et ensuite, au retour, il est encombré de malades de la peste, de blessés, etc. Eh bien, il décide leur empoisonnement, c'est-à-dire de les abandonner en route, et de les empoisonner, ce qui est une manière finalement pragmatique de régler le problème. C'est-à-dire il a un côté à la fois démesuré et absolument monstrueux, mais qui, à mon avis, a eu un effet positif. C'est-à-dire que tout le monde sent, quand il revient d'Égypte, qu'il est capable absolument de tout. Et c'est ce qui va lui permettre, au fond, de gouverner ensuite de manière si modérée. Il n'a pas besoin de montrer sa force. Tout le monde la sent. Et tout le monde sait que ce personnage urbain, civilisé, plutôt agréable d'ailleurs dans la fréquentation quotidienne, en même temps est un homme en qui il y a une dureté absolue et qu'il est capable du pire.
On va, je suis désolé, mais on va aller à la culbute de Saint-Cloud.
Oui, c'est le 18 Brumaire.
C'est le 18 Brumaire, oui. Quand même une date
qui est un grand
importante.
Mythe. C'est un grand mythe parce que c'est resté dans l'histoire comme un coup d'État qui a renversé la Révolution, qui lui a permis de prendre le pouvoir, plus tard de se faire empereur. C'est un mythe dans la mesure où ce coup d'État a été à peine un coup d'État. C'est-à-dire, il y a un consentement presque général au fait que ce soit lui qui prenne le pouvoir, parce qu'il s'impose, pour ainsi dire, naturellement quand il revient d'Égypte dans une situation quasi désespérée. C'est-à-dire que les institutions de la République sont vraiment à bout de souffle. Tout le monde prépare un coup d'État dans son coin. Et là encore, il a de la chance. Hein. Il revient avant que personne ait eu le temps de faire un coup d'État. Mais y compris les gens qui sont au gouvernement.
Et rentrer alors qu'il n'aurait pas eu le droit de rentrer.
Il n'a pas le droit de rentrer. Il abandonne son armée en Égypte et il rentre grâce aux Anglais, puisqu'il négocie avec les Anglais qui ont mis le blocus devant l'Égypte, la possibilité de sortir. Et les Anglais se disent, lui parti d'Égypte, l'expédition va... Ils vont capituler. Donc les Anglais ont intérêt à ce qu'il quitte l'Égypte. Et à ce moment-là, il y a une rumeur chez les royalistes disant qu'il va être le général Monk français.
Voilà.
C'est-à-dire, tout comme le général Monk avait rétabli la monarchie en Angleterre après Cromwell, il pense que ce Bonaparte qui ménage le pape, qui a des sympathies pour les royalistes, qui appelle Louis XVIII sa majesté, etc., une fois qu'il aura pris le pouvoir, va rendre sa couronne aux Bourbons, leur couronne aux Bourbons. Donc, les Anglais le laissent rentrer en France. Il arrive au bon moment, au moment où les institutions sont à bout de souffle. Simplement, il va passer 3 semaines à savoir avec qui il va s'allier. Et finalement, il va s'allier avec Sieyès, qui est au gouvernement, parce que les gens du gouvernement eux-mêmes préparent un coup d'État contre les institutions qu'ils ont la mission de défendre. Et il ne trouvera en face de lui que le dernier carré des Jacobins, pour une raison simple, il n'a pas voulu faire affaire avec eux. Parce qu'il avait décidé qu'il fallait bien que quelqu'un paye les pots cassés et que ça serait eux qui paieraient les pots cassés. Donc ils ont fait un simulacre de résistance le deuxième jour du coup d'État. Et puis, une fois qu'ils ont finalement fait ce qu'ils devaient faire, eh bien tout le monde est rentré chez lui. Et il y a une scène, un peu, ça finit de manière un peu triste. Donc on fait évacuer l'orangerie de Saint-Cloud où on avait réuni le Parlement. Par la force, comme c'est une orangerie, on ouvre les portes-fenêtres, les députés sortent dans le parc, et comme c'est l'heure d'aller dîner, vont remplir les restaurants de Saint-Cloud pour manger. Donc, c'est la fin, c'est une fin triste pour un grand événement comme la Révolution française, qui a commencé en fanfare avec la réunion des États généraux à Versailles, et qui finit à Saint-Cloud par une scène tout à fait indigne, presque, mais qui lui donne le pouvoir.
La mise en place du consulat.
La mise en place du consulat.
Là, on saute beaucoup d'événements, mais vous voyez, on n'a pas tellement le temps.
Ça, c'est un accord entre lui et Sieyès. Ils ont écrit un peu à quatre mains le plan des nouvelles institutions qui restent républicaines. Simplement, au lieu de 5 chefs de l'État, le directoire, il n'y en aura plus que 3. 3 consuls, on reprend le nom à la terminologie romaine, 3 consuls élus pour 10 ans et indéfiniment renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans sa tête l'idée d'un pouvoir viager, permanent, et d'ailleurs il savait très bien que cette première marche ne serait pas pour lui la dernière. Et dès le moment, il a donc 30 ans à ce moment-là, où il accède au pouvoir, il a déjà en tête de rétablir la monarchie à son profit, parce que c'est sa faiblesse, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que chaque fois qu'il franchit une marche, il pense à la suivante. Et dans son idée, c'est un escalier qui n'a pas de fin. Et c'est ce qui le conduira finalement à sa perte. C'est-à-dire que premier consul pour 10 ans, puis consul à vie, puis empereur héréditaire, d'abord pour la France, ensuite pour l'Europe. C'est-à-dire dans son esprit, il n'y a jamais de fin à ce qu'il est capable d'accomplir. Mais au début, ça reste un régime républicain. Alors, ils sont trois, il est le premier des trois, le seul d'ailleurs qui a un vrai pouvoir. Et d'ailleurs, il a tous les pouvoirs. Autour, pour décorer, on met des assemblées pour que ça ressemble encore à une république, mais des assemblées qui ne sont là que pour acquiescer à ce qu'il veut. Mais il invente ce qui va être son assemblée à lui, celle qu'il autorise à parler, en qui il a confiance, qui va être le Conseil d'État. Conseil d'État, c'est lui qui choisit les conseillers, non pas pour leurs opinions, mais pour leurs compétences, et il en fait son parlement à lui. Mais le corps législatif, le Sénat, tout ça sont des corps qui vont être très vite tout à fait avilis, très bien rémunérés. Et il dit, on leur donne de l'argent.
On leur donne de l'argent, ça
fonctionne. En échange, ils se taisent. Sinon, ils seront comme les membres du tribunat, ils seront épurés au début de 1802. Et le tribunat réduit à néant. Donc, tout de suite, il impose un style de gouvernement tout à fait dictatorial. D'abord parce qu'il déteste les assemblées, les bavardages. Première mesure, c'est de supprimer la quasi-totalité des journaux. Il déteste la liberté de la presse. Fait racheter les journaux qui restent par ses proches. Fouché, à lui seul, en rachète trois. Lucien en rachète un. Cambacérès en rachète. Talleyrand en achète un. Donc son entourage.
Qu'est-ce qu'il dit ? Je les laisserai faire. Je tiendrai pas trois mois où je.
Bah, il a bien vu le rôle qu'a joué la liberté de la presse dans la Révolution. Mmh. C'est-à-dire que ça a été aussi un des aliments de la surenchère, de la radicalisation et de la violence. Donc il dit si je laisse faire les journalistes, je vais tenir trois mois et ensuite je vais être renversé. Mmh. Donc pas de liberté de la presse, pas de liberté de tribune, contrôle très strict tout de suite sur les théâtres. Sur la littérature, sur l'édition, etc., rétablissement de la censure, et une pratique tout à fait despotique du pouvoir, mais tempérée par le fait qu'il sait que dans une société moderne, il faut néanmoins obtenir l'assentiment, le consentement de l'opinion publique. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et il s'agit aussi de bien s'entourer, donc de trouver des collaborateurs de talent, pour une tâche énorme.
Mais en 4 mois, quel boulot !
Terrible. En 3 ans, il réinvente un pays.
Ouais.
Donc avec des institutions qui vont durer.
Reprise en main de l'ensemble du pays.
Reprise en main, mais aussi
mise en place de structures.
De structures qui sont la mise en application des principes de la Révolution. Donc l'égalité devant la loi, l'égalité fiscale, l'abolition des privilèges, tempérée par ce qui est sa grande idée, qui est la méritocratie. Le pouvoir au meilleur. Donc, pas d'égalité dans la société. Il n'en veut pas. Il faut qu'il y ait des distinctions, mais qu'il soit des distinctions méritocratiques. Donc, par exemple, dans l'armée, l'avancement au mérite. Dans la fonction publique, pareil. Dans tous les domaines. Donc ça, c'est sa grande idée. Et l'autre grande idée complémentaire, c'est qu'on ne doit pas revenir sur le passé. C'est-à-dire qu'une révolution est une chose grave, c'est une chose sérieuse. On ne doit pas rechercher qui a fait quoi, qui a tué qui. Une fois que la révolution est finie, c'est fini. Et on doit accueillir tout le monde, quel qu'ait été le camp des uns ou des autres.
Donc, on a sifflé la semaine partie.
C'est fini. Et il accueillera terroristes, anciens terroristes et anciens royalistes de la même façon, en ne prenant en critère que leurs compétences. Et leur obéissance aussi.
Leur obéissance.
Il faut que ce soit des gens qui travaillent pour lui et qui en même temps travaillent pour le pays, mais sans avoir d'idée de poursuivre des projets personnels ou de rester attaché aux idées ou à la manière de faire qui a été celle de la Révolution ou de l'émigration. Hein ? Donc il a à la fois un art politique et aussi une conception très claire de ce que doit être la société française d'après la Révolution.
Écoutez, je voulais encore vous interroger sur son entourage, on va parler rapidement de cet entourage et je vous laisserai aussi aborder le point le plus important qui vous semblait de devoir préciser au cours de cette conversation, parce que on n'a pas pu aborder tout, tellement votre ouvrage est riche. Parlons rapidement de l'entourage. Talleyrand,
Joséphine. L'entourage, il est extraordinaire parce que c'est une époque révolutionnaire, c'est une époque d'aventure aussi, qui est remplie de gens qui n'avaient pas leur place dans une société normale. Et par exemple, Talleyrand, qui est un grand seigneur, certes, mais qui est en même temps un marginal, n'aurait pas eu sa place si l'ancien régime n'avait pas été renversé. Fouché serait resté un prêtre s'il n'y avait pas eu la Révolution. Il n'aurait pas donné la mesure de ce qu'il pouvait donner. Donc, c'est rempli de personnages qui sont des aventuriers, qui sont des parvenus aussi, qui se sont beaucoup enrichis, parce que la Révolution, ça a été une formidable occasion de faire fortune, de s'enrichir. Et autour de Napoléon, tout le monde s'enrichit. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure... Il leur donne les moyens et il veut qu'ils s'enrichissent. Et par exemple, dès la campagne d'Italie, quand autour de lui quelqu'un refuse un pot de vin, il se fait molester. Parce que pour lui, voir les gens qui s'enrichissent autour de lui, c'est un moyen de les contrôler. Et plus ils sont malhonnêtes, plus il les tient. D'où le fait qu'il les pousse aussi à s'enrichir. Et puis il pense aussi qu'un pouvoir post-révolutionnaire, surtout comme il est composé de gens qui ont un passé à faire oublier, etc., qui parfois ont des manières qui laissent à désirer, comme Fouché, comme d'autres, eh bien, il leur faut un peu du lustre. Donc, il faut de l'or, il faut des diamants pour les femmes, il faut des belles robes, il faut des salons, des endroits luxueux, pour que tout ça prenne un peu de, comment dire, de consistance et se patine un peu. Il a le sens de ça. Et c'est vrai que c'est très important pour un gouvernement nouveau, surtout lorsqu'il s'agit d'être respecté par la cour de Vienne, la cour de Berlin ou la cour de Saint-Pétersbourg, qui ne sont pas n'importe quoi, qui ne sont pas des pouvoirs démocratiques. Donc ce sont des gens à la fois tout à fait pittoresques, mais qui ont été à cette école sans équivalent qu'a été la Révolution. Parce que la Révolution, c'est un milieu darwinien où ne survivent que les meilleurs. Les médiocres meurent. Ou alors ils sont très vite oubliés, ou alors ils sont tués.
Ou guillotinés.
Il n'y a que les plus habiles, les plus cruels, mais aussi les plus intelligents qui survivent. C'est le monde des Fouché et des Talleyrand qui l'entoure. Et donc ça donne un monde mêlé, et tout son entourage est comme ça, mais qui va devenir un peu la France du 19e. C'est un mélange de société démocratique et de société aristocratique. C'est à la fois Fouché, mais aussi Chateaubriand, et qui va faire la particularité et la richesse de la société française jusqu'au moment où elle va être totalement détruite par la guerre de 14-18. C'est un monde qui a disparu après 14-18. On ne sait plus ce que c'était que cette société d'après la Révolution, qui n'était ni vraiment démocratique, ni vraiment aristocratique, mais qui était un petit peu des deux.
Ouais.
Et je pense que si vous voulez avoir l'idée de ce qu'était cette société, eh bien c'est au cinéma qu'on la voit. Il faut voir un film qui est un vieux film, mais des années 50, qui s'appelait Les Grandes Manœuvres, et qui est un monde, c'est un film de René Clair, et qui est on y voit une représentation très exacte de ce qu'était cette société où les militaires tenaient le premier rang, et ces militaires qui incarnaient un peu la synthèse des deux mondes d'avant la Révolution et d'après la Révolution. Et ça, c'est tout à fait symptomatique. Donc, c'est un monde à la fois bohème, qui réapprend les manières de l'ancienne France, plus ou moins bien, mais qui, en même temps, reste imprégné de l'esprit de la Révolution et aussi de sa brutalité. Et les symboles, ce sont les maréchaux. Napoléon disait « Mes maréchaux sont très bien élevés, mais attention, ils vous rentreraient dans le ventre un couteau sans faire d'histoire, sans un mot.
» Quel est le point le plus important que vous souhaiteriez donner ?
Le fait que c'est une histoire qui reste inouïe, C'est-à-dire on peut, comme là, l'expliquer, trouver des raisons à la campagne d'Égypte, à la campagne d'Italie, au consulat. Il y a une part rationnelle dans cette histoire. Mmh. Mais en même temps, il y a une part qui relève de l'art ou de l'imagination, qui dépasse tout ce qu'on a connu dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que même l'épopée d'Alexandre en Orient, c'est très en dessous de l'épopée de Napoléon, qui a quelque chose d'inouï. Et ce qu'il y a de plus fascinant dans cette histoire, c'est au fond qu'il a entraîné un pays dans une histoire qui était la sienne en réalité et qui lui appartenait jusqu'au désastre. Il les a emmenés jusque dans les neiges de Sibérie, de Russie, hein, jusqu'à la Bérézina. Ils l'ont suivi avec enthousiasme, presque jusqu'au bout, et il a fait vivre une histoire qui est une aventure tout à fait anachronique à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où l'Occident invente la société bourgeoise et ses valeurs pacifiques et civiles et privées, de bonheur privé, familial, etc. Et il a fait revivre en Occident, au fond, l'esprit de l'Antiquité pendant quelques années. Et c'est ça qui est inimaginable et, au fond, inexplicable. C'est-à-dire comment, et pas seulement un pays, comment l'Europe entière s'est jetée dans une aventure tout à fait anachronique, qui d'ailleurs n'a laissé aucune trace, parce que ce qu'il a laissé de solide, les institutions d'après la Révolution, d'autres l'auraient fait, moins vite, sans doute moins bien.
C'était
dans l'esprit du temps. C'est-à-dire l'invention de la société bourgeoise du 19e, c'était dans l'esprit du temps. Mais il y a par là-dessus une part qui lui appartient en propre et qui explique la fascination qu'il a exercée dans le monde entier. Parce que ce qui fascine, ce n'est pas le code civil, c'est son aventure extraordinaire et qui finira comme doivent finir les grandes aventures, par une tragédie. Et c'est pourquoi d'ailleurs à la fin, il reviendra de l'île d'Elbe. Parce que mourir sur l'île d'Elbe, c'est pas très grandiose. Il lui fallait une fin à sa mesure. Et là, il va sacrifier le pays à ça, avec Waterloo. Et il aura finalement, grâce aux Anglais, la fin grandiose qu'il souhaitait, qui sera Sainte-Hélène.
Hein ? Tout à fait. La fin c'est sacrificielle.
Ça. Oui, qui fait que son histoire se transforme en un mythe. Et c'est ça qu'il cherche, au fond, depuis l'Italie, parce que c'est la part de folie qu'il a dans la tête. C'est-à-dire qu'il est destiné à se mouvoir aussi haut qu'un Alexandre ou un César, et même plus haut. Et il a réussi, au fond. Oui. Finalement, il a gagné.
Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Patrick.
C'est moi.
Je vous remercie. C'est extraordinaire, je peux vous dire. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.